Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Du grain à moudre d'été, ce soir, la réforme des retraites est-elle équitable ? C'est l'un des sujets les plus récurrents du débat public. La réforme des retraites, elle fait son retour dans l'actualité. C'est ce matin qu'a été dévoilé le rapport dirigé par Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire en charge des retraites au gouvernement. Un texte qui est le fruit d'une longue concertation, elle a duré un an et demi. Il propose, et c'était attendu, un nouveau système universel, à points, qui entraîne de nombreux changements, précisés d'ailleurs dans le rapport. Un système présenté comme rassembleur et plus équitable, système déjà critiqué par quelques organisations syndicales, d'où cette question, cette réforme des retraites est-elle véritablement équitable ? Pour en parler, trois invités. Antoine Bozio, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Institut des politiques publiques, maître de conférence à l'EHESS et chercheur associé à l'École d'économie de Paris. Vous êtes également l'auteur, avec Thomas Piketty, de « Pour un nouveau système de retraite », livre publié par les éditions de la Rue d'Ulm. Michaël Zemmour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en économie à l'Université Lille 1. Vous travaillez aussi pour le laboratoire d'évaluation des politiques publiques à Sciences Po. Vous êtes là-bas le co-directeur d'un axe de recherche, l'axe sur les politiques socio-fiscales. Fabienne Clamins, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes assistante sociale dans une caisse de retraite et vous êtes chargée des questions de retraite à la CGT. Pour commencer, et avant de rentrer avec vous dans le détail de ce qui a été annoncé ce matin, je voudrais vous faire écouter Jean-Paul Delevoye. C'était à la mi-journée, lors de la conférence de presse qu'il a donnée pour expliquer son rapport. Il a parlé de méthode et de l'esprit général de cette réforme.
Il a été très clairement demandé à ce que dans ce système universel des retraites, ce soit vraiment un projet de société qui permette à chacun de relever les défis de l'incertitude du lendemain sur son métier, sur sa profession, sur les aléas économiques, et faire en sorte que nous puissions apporter à chacun, non pas la fragilité d'une solidarité professionnelle avec des professions qui peuvent changer, qui peuvent disparaître, qui peuvent ressurgir, mais une solidarité collective dans laquelle on ait à nouveau le sens de la cotisation, le sens de la responsabilité et de la solidarité envers l'autre. Et c'est ce projet qu'il m'a été amené à construire avec une méthode que le président de la République a soutenue, en donnant du temps et en favorisant le dialogue constructif avec l'ensemble des partenaires sociaux, mais aussi des citoyens, les parlementaires et tous les observateurs universitaires, chercheurs particuliers qui ont un regard à porter sur ce sujet.
Alors, la méthode, nous allons y revenir, puisque Jean-Paul Delevoye a évoqué ses rencontres avec des chercheurs, des représentants d'organisations syndicales, autrement dit, vous. Est-ce que, très rapidement, vous avez été entendu par cette commission, Antoine Bozio ?
Moi, ça fait plusieurs. Donc, j'ai été sollicité à plusieurs reprises, pour participer à des groupes de travail et aussi pour répondre aux questions du haut commissaire et son équipe.
Michaël Zemmour.
Non, pas particulièrement. J'ai eu quelques échanges avec des membres du HCRR, mais précisément les questions sur lesquelles je travaille, le niveau moyen des pensions, une question qui a été complètement évacuée du débat, et c'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas été discuté.
Moyen, on va y revenir. Et vous, Fabienne Clamins ?
Bah écoutez, la CGT a participé aux concertations, mais effectivement, entendu, pas du tout, hein, ouais. Vraiment pas. Donc, en fait, on nous a juste présenté au fur et à mesure des bouts d'une réforme qui était de toute façon déjà calée, on va dire.
Pour tester, hein, vous dites.
Voilà. Nous, on dit qu'effectivement, après, c'était pour essayer de voir, en gros, on va dire, les points un petit peu de crispation, et essayer peut-être d'améliorer la communication autour de ces points de crispation, mais absolument pas pour tenir compte, en tout cas, de nos propositions. Voilà.
Bon, on va revenir plus en détail sur cette méthode dans quelques minutes au cours de cette émission. Un projet de société, dit Jean-Paul Delevoye, avec une solidarité collective. Voilà quelques-unes des formules qu'on vient d'entendre. Je voudrais savoir aussi ce que vous pensez de cet esprit général, de cette idée générale de la réforme. Jean-Paul Delevoye, lui, parle même de changement de système, de passage à un système universel. Michaël Zemmour.
Je pense que c'est vrai qu'une retraite, un système de retraite, ça définit un modèle de société. On voit bien que les pays dans lesquels les retraites sont privées, par exemple, n'ont pas du tout les mêmes systèmes de solidarité, et que la France a fait par le passé des choix forts, et notamment d'avoir un système de retraite qui est quasiment le revenu exclusif des seniors. Les seniors, en général, ils sont propriétaires de leur logement, et ils vivent des retraites. Et donc, effectivement, réfléchir au système de retraite, c'est un choix de société. Et du coup, là, il y a un changement de logique, effectivement, puisque la retraite, depuis les années 70 en France, elle avait été pensée comme un objectif de maintien du niveau de vie. C'est-à-dire, on finit de travailler et on maintient son niveau de vie avec une portion de son salaire, 70-75% pour les ouvriers employés, moins pour les cadres. Et là, on bascule dans une autre logique, qui est une logique d'accumulation, une logique de pseudo-épargne dans un système public. Et quand on commence à regarder un petit peu les chiffres, on a plutôt un système de retraite qui se présente comme un vrai filet de sécurité pour les seniors, mais pas forcément comme le revenu exclusif. C'est-à-dire un premier revenu, mais qu'il faudrait compléter pour ceux qui le peuvent. Mmh. Donc oui, il y a un choix de société.
Antoine Bozio.
Je suis pas du tout d'accord à ce que vient de dire Michaël Zemmour. C'est-à-dire que je crois qu'il y a effectivement un changement dans la fonction, dans la façon dont le système de retraite, là, est considéré. Mais le gros changement, c'est pas ni dans sa logique, ni dans son fonctionnement. Il sera toujours un système public, très majoritaire, un système en répartition. La grande différence, c'est qu'on avait une logique qui était mise en place à l'après-guerre, d'un morcellement, où chaque corporation, finalement, chaque régime, chaque système devait être différent, chacun, où la solidarité, c'était la solidarité de son petit groupe corporatif, et non pas une solidarité nationale, avec des mêmes règles pour tous, des mêmes droits de solidarité pour tous. C'est ça l'essentiel de ce qu'est finalement ce projet de société. Mais si on veut vraiment le décrypter, qu'est-ce que voulait faire en 1945 à l'initiative de la sécurité sociale du régime général ? C'était ça, c'était un régime général, universel. Ça n'a pas fonctionné en 1945. Mmh. Et aujourd'hui, c'est comment reprendre sur les mêmes logiques, les mêmes bases, d'arriver à avoir les mêmes règles pour tous, les mêmes droits de solidarité pour tous.
Fabienne Clamins, puis Michaël Zemmour.
Alors, évidemment que le système, enfin, les régimes de retraite, c'est un vrai choix de société. Et là, on voit vraiment que c'est un vrai choix de société. Dans le sens où effectivement l'objectif, en fait, le changement de société qu'il y a par rapport au système actuel et à ce qu'on nous propose, c'est l'objectif qu'il y a derrière. C'est-à-dire que là, on est dans un objectif d'équilibrer des finances, mais on y reviendra, on va dire à budget constant avec des retraités qui augmentent. Or, l'objectif du système actuel, comme le disait Monsieur Zemmour, c'est effectivement le maintien du niveau de vie des retraités, et ça c'est très important, hein, de pouvoir maintenir un niveau de vie qui soit un niveau de vie de bonne qualité. Et puis aussi, c'était aussi l'idée que, effectivement, était inclus dans le système de retraite ce qu'on appelle les solidarités, c'est-à-dire qu'on prenait en compte les aléas de la vie au cours de la carrière, quand vous étiez en maladie, etc. Tout ça était pris en compte dans le cœur du système. Mmh. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un système qui sort les solidarités du cœur du système.
On va y revenir, parce qu'il y a quand même quelques ajustements qui ont été proposés par Jean-Paul Delevoye et sa commission sur ce sujet. Michaël Zemmour.
Pour être plus précis sur votre question, il y a un changement de logique dans la technique de retraite. Il y a un vrai basculement. Effectivement, le système actuel n'est pas parfait. Il a ses imperfections, notamment les inégalités femmes-hommes. Mmh. Mais la logique du système actuel, c'est ce qu'on appelle un régime à prestations définies. On se donne un objectif de niveau de retraite et en fonction de cet objectif, on va chercher ce financement.
Pour être clair, on veut 50% du salaire sur les 25 dernières, sur les 25 meilleures années, ça concerne le privé. Donc, on fait en sorte de trouver le financement nécessaire à ces 50%.
Précisément. Et on inscrit dans la loi l'objectif de niveau de retraite. Et des fois, on inscrit dans la loi une baisse d'ailleurs. Ça a été l'objet des dernières réformes. Et là, il y a un basculement parce qu'on passe, comme beaucoup de pays européens, dans un système qu'on appelle la cotisation définie. C'est-à-dire qu'on définit le niveau de cotisation, on définit l'enveloppe future des retraites. Et les ajustements dans le futur se feront soit en travaillant plus tard, soit par la baisse des pensions. Et donc, on change de logique. Avant, on fixait la cible et maintenant, on fixe l'enveloppe. Et l'ajustement, c'est le niveau ou la durée. Mmh. Alors, sur le résultat, on peut faire des comparaisons, mais sur la logique, il y a bien un basculement.
Antoine Bozio.
Prenons ce point-là, de dire, est-ce qu'on est vraiment un système à prestations définies aujourd'hui ? On dit 50% du salaire des 25 meilleures années dans le système actuel, par exemple dans le secteur privé, le régime de base. Mais en fait, c'est pas un vrai 50% qu'on s'est fixé. Ce ne sont pas des vraies prestations définies. Pourquoi ? Parce que pour équilibrer le système, qu'a-t-on fait ? On a dévalorisé les droits à la retraite en mettant des indexations sur l'inflation plutôt que les salaires pour faire baisser le niveau effectif du taux de remplacement. Mmh. Mais ça veut dire qu'en réalité, dans le système actuel, on n'est pas sur de la prestation définie. En réalité, on a fait cacher, semblant de passer des ajustements pour l'équilibre, en faisant croire qu'on vous maintenait un taux, qu'il certes le taux ne bougeait pas, mais la réalité du calcul à la pension le faisait dévaloriser. C'est un, je pense que ce qui est très important pour bien comprendre ce débat-là, c'est de reprendre ce qui était le rapport du Conseil d'orientation des retraites, les rapports qui, depuis une dizaine d'années, montrent les projections, l'évolution des dépenses de retraite en pourcentage du PIB en fonction des hypothèses de croissance qu'on peut avoir dans le futur. J'ai repris le dernier rapport là, de juin 2019 hein, qui vous donne ces évolutions-là. Ils vous donnent des évolutions en pourcentage du PIB qui, en fonction du taux de croissance, sont entre stables, décroissants et très décroissants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est exactement pas dans le système que décrit Michael Zemmour. C'est-à-dire que dire qu'il y a un changement de logique dans le système où maintenant on va en fait vous maintenir constant le niveau total de pension de retraite, alors que dans le système actuel on serait dans un maintien du taux, est inexact. Aujourd'hui, le système actuel n'est pas comme ça. Au contraire, moi ce que je trouve un petit peu problématique, c'est le fait que on se donne une sorte d'équilibre du système qui est dépendant d'un taux de croissance qui peut faire dévaloriser les pensions sans qu'on s'en rende compte ou pas, qui escamote dans le système actuel le vrai débat. Et là où je rejoins Michael Zemmour, c'est qu'il y a un vrai débat politique, démocratique à avoir faire sur quel est le bon taux de cotisation qu'on souhaite mettre dans le système.
Alors on va y venir. Fabienne Clamins.
Donc évidemment, je ne partage pas du tout cette vision des choses. Effectivement, ça a été dégradé, mais ça a été dégradé parce que ça a été des choix politiques et des choix de société. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, si on part du principe qu'on veut maintenir un certain niveau de vie, eh bien, on se donne les moyens de trouver les finances pour le maintenir. C'est-à-dire que là, c'est un vrai choix de société. Et des solutions, il peut y en avoir. Sauf que les solutions qui ont été trouvées jusqu'à maintenant, c'était évidemment de dégrader ce système qui permet malgré tout encore de maintenir un niveau. Voilà.
Si vous permettez juste que pour essayer de comprendre vraiment, parce que dans le système actuel, vous aurez, selon les projections du COR, une dégradation plus forte des taux de remplacement à la retraite que si la réforme est mise en place. Comment, dans le cadre de la réforme qui est mise en place, il est toujours possible chaque année, de décider, vous pourriez par exemple, dans le cadre des discussions de gouvernance, que certains partenaires sociaux souhaiteraient augmenter les dépenses de retraite. Donc le nouveau système permettrait d'obtenir ce que vous souhaitez mettre en place, c'est-à-dire nous souhaitons collectivement consacrer plus d'argent à la retraite, ça serait possible. Dans le système actuel,
ça n'est pas possible.
Ce n'est pas possible.
Fabienne Clamins.
Écoutez, je ne partage pas du tout cette vision des choses. Le projet quand même aujourd'hui, c'est bien de mettre en place un système, une mécanique avec un pilotage automatique qui va permettre au contraire de baisser les retraites, puisque aujourd'hui l'objectif du gouvernement, c'est de dire on est à 14, la part des retraites dans le PIB, c'est 14%. En parallèle, on a des retraités qui augmentent et on veut pas toucher cette part. Et à partir de là, on met en place un système avec effectivement une mécanique qui va permettre d'ajuster. Et je veux dire, à partir du moment où vous avez un gâteau de 14%, que vous ne voulez pas toucher, que vous avez plus de retraités, eh bien forcément, vous allez avoir des parts plus petites au fur et à mesure et vous allez baisser les retraites. C'est tout. C'est un choix qui est fait, malgré tout, aujourd'hui.
Pour avancer dans le débat, je voudrais qu'on entre un peu plus dans le concret et qu'on parle du système qui est proposé aujourd'hui par Jean-Paul Delevoye, à savoir le système universel à points. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne, Michael Zemmour?
Je parle sous le contrôle d'Antoine Bozio qui a un peu imaginé pour la version française ce système-là. Le système à points, c'est un système dans lequel chaque année, avec son salaire, on achète un stock de points. Et ce stock de points est revalorisé tout au long de la carrière. Et en fin de carrière, on regarde combien vous avez de points. On estime l'espérance de vie de votre génération. Et en fonction de ça, on regarde ce que le système peut vous payer. Et dans ce contexte-là, plus l'espérance de vie s'allonge, plus ce qu'on peut vous payer chaque année diminue. Mais par contre, vous pouvez maintenir votre pension à condition de prolonger votre durée d'activité. Donc ça, c'est la logique de base du système à points.
Antoine Bozio.
Donc la façon dont le système fonctionne, il fonctionne de façon très très proche du système actuel. La bonne façon de le comprendre, c'est qu'au lieu d'avoir une règle qui veut dire vous avez un taux qui vous dépend des 25 meilleures années qui vont être valorisées par l'inflation. La règle là, elle va dire que on prend en compte toute la carrière et que tous les moments de la carrière vont être revalorisés par la croissance des salaires pour faire en sorte qu'ils aient le même poids, la même valeur. Donc que vous payiez des cotisations au début de votre carrière, à la fin de votre carrière, si vous avez des trous ou pas des trous, tout doit voir des droits qui sont portés pour les salariés. Donc, qu'est-ce qui est important pour l'équilibre? Si, à cotisation donnée, Donc la façon, et c'est là peut-être un point important pour bien comprendre, une fois qu'on s'est mis d'accord et que les partenaires sociaux qui gèrent ou la façon dont la gouvernance du système décide à date T, voici le taux de cotisation qu'on met dans le système, on garde, on est obligé de dire aux futures générations, pour l'équilibre, voici ce qu'on peut vous garantir, vous offrir, sachant ce qu'on sait sur l'espérance de vie en retraite de chaque génération. Si des générations plus jeunes passent plus de temps en retraite au vu d'une espérance de vie plus importante, on ne peut pas leur garantir, sans augmenter le taux de cotisation, qu'ils pourront partir au même âge, avec le même niveau de pension.
Actuellement, le taux de cotisation, il est de 28%.
Actuellement, il est de 28%.
28%. Et dans la réforme proposée ce matin par Jean-Paul Delevoye, il n'a pas l'intention de le toucher. Hein.
Non, simplement, il y a des différences entre régimes, et donc il propose une convergence progressive entre les différents régimes vers ces 28%.
Michaël Zemmour.
C'est là tout l'enjeu. C'est-à-dire que le taux aujourd'hui, il est de 28%. Ça veut dire qu'on va garder la même part des richesses dans le PIB.
Concrètement, 28%, c'est sur le salaire brut. Hein, c'est
sur le salaire brut. Ça correspond à 14 points de PIB, grosso modo. La chose qu'on sait, c'est que comme l'espérance de vie va augmenter, la part des retraités dans la population va augmenter. Et donc, si on reste à ce taux de 28%, mécaniquement, ça veut dire que chaque retraité aura une part du PIB, un revenu par rapport au revenu des actifs plus faible. Et un des éléments de la réforme, alors je suis d'accord avec Antoine Bozio, ça prolonge les réformes précédentes, ça poursuit un trait, c'est qu'on met le système en pilote automatique. C'est-à-dire qu'on dit 28% c'est le taux, il ne bougera pas, et si rien n'est fait, les ajustements se font par l'âge ou par la baisse de la pension. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait des nouvelles lois qui arrivent, mais ce qui est écrit dans le rapport est assez ferme, on a une enveloppe constante, et les ajustements se font par un décalage d'un an à peu près tous les 10 ans, de l'âge cible et donc du niveau de la pension.
Antoine Bozio, puis Fabienne Clamins.
Donc, le premier point, c'est que dans ce nouveau système, on fixe le taux de 28% aujourd'hui parce que c'est le taux actuel. Rien n'empêche de l'augmenter à l'avenir. Le deuxième point important, c'est que dans le système actuel, on ne dit pas qu'on maintient 28%. Puisqu'on dit quoi ? Vraiment, lisez ce graphique du corps. Il dit quoi ?
Le corps, c'est le Conseil d'orientation,
Des retraites. Si vous avez un taux de croissance de 1,8%, à l'horizon 2060, les dépenses du PIB vont baisser à 12 points de PIB. Deux points de PIB de moins.
Oui, 12 points du produit intérieur brut consacré aux retraites.
Hein. Exactement. Donc, c'est une baisse considérable. Donc, dire aujourd'hui... Ce que je trouve assez ironique, c'est qu'une partie de l'opposition à cette réforme, elle n'est pas venue de la CGT, elle n'est pas venue de Michaël Zemmour, elle est venue au sein du gouvernement de gens qui pensent que dans le système actuel, on va pouvoir baisser les pensions beaucoup plus fortement. Et que le gros problème de cette réforme, c'est qu'en fait, on va plus pouvoir baisser les pensions de 2 points de PIB. C'est intéressant, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en réalité, l'équilibre du système aujourd'hui, il dépend de taux de croissance qu'on ne maîtrise pas et que chacun peut projeter, selon ses préférences politiques, ce qui va être l'évolution future des dépenses du PIB. Mais en fait, en faisant ça, on escamote vraiment le vrai débat politique. Et là, je serais d'accord vraiment avec Michaël Zemmour et pour dire, ça fait partie du vrai débat démocratique qu'on doit avoir régulièrement, de façon répétée, sur le taux de cotisation retraite.
Fabienne Clamins, puis Michaël Zemmour, puis on va passer un autre sujet pour avancer.
Peut-être que dans ce système-là, dans ce que vous dites, on baissera moins facilement la pension des retraites, sauf qu'effectivement, à partir du moment où le système sera installé, elles seront baissées d'entrée de jeu, ces retraites. Non, simplement, effectivement, dans ce système-là, et on le comprend bien, puisqu'on doit prendre en compte l'espérance de vie, enfin, il y a tout un tas de critères à prendre en compte, qui sont des critères aléatoires et qui sont des critères dont on ne connaîtra pas, on ne sera pas en capacité en tout cas de savoir avec quoi on va partir à la retraite de façon... on le saura en fait au moment de partir à la retraite.
Comment voudriez-vous financer le système de retraite pour donner plus d'argent aux retraités et leur assurer une retraite donc en fonction de l'augmentation
de la espérance de vie ? Après le financement, j'ai envie de dire, aujourd'hui on est quand même dans un pays qui produit des richesses. Hein. C'est simplement à un moment donné cette répartition des richesses et ça, je veux dire, c'est une volonté.
Donc sur l'impôt.
Au niveau, enfin, disons qu'il y a les cotisations, il y a les exonérations à arrêter, à stopper. Il y en a des solutions, hein. Je veux dire, si on veut, par exemple, ça peut être aussi avoir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, et ça pourrait faire tout à fait une manne de ressources. Donc, je veux dire, si on veut vraiment, si on a vraiment le projet de société de maintenir un niveau de retraite décent pour les retraités, effectivement, on peut trouver des solutions de financement. Là, c'est pas le cas. Et effectivement, juste pour finir, quand on dit effectivement c'est un système qui va quand même prendre en compte toute la carrière, et là, on voit bien là aussi que ce système à points, par rapport aux carrières heurtées, il va être très défavorable à ces carrières-là.
Michael Zemmour.
Ce qui est tout à fait juste, c'est que le vrai débat, avant d'être un débat technique, point ou pas point, système actuel, pas système actuel, c'est le débat sur le niveau des pensions. Et c'est ça qui me paraît frappant, c'est que les pensions sont orientées à la baisse, ça a déjà commencé, les projections disent que ça va continuer, et alors qu'il y a eu 2 ans de discussion, c'est quelque chose qui a été complètement évacué du débat, alors que la première question qu'on se pose, c'est combien et à quel âge. Donc ça, c'est vrai. Par contre, il y a quand même un tournant dans la réforme. Ça prolonge le trait de ce qui existe, mais il y a un tournant. C'est qu'à chaque réforme précédente, on a effectivement cherché à équilibrer le système, en partie par des mesures d'âge, en partie par des baisses de pensions, mais aussi en partie par des nouvelles ressources, des hausses de cotisations. Rien que cette année, par exemple, les partenaires sociaux à l'AGIRC et à l'ARCO, les retraites complémentaires, pour empêcher une baisse des pensions, ont relevé un peu, pas beaucoup, mais un peu le taux de cotisation. Et dans le projet de réforme, on met vraiment le système en pilote automatique et notamment on retire aux partenaires sociaux la décision sur le taux de cotisation en la confiant au Parlement.
Le taux de cotisation, on en a parlé, 28%. Actuellement, il est partagé entre l'employeur et le salarié, 60% pour l'employeur, 40% pour le salarié. Est-ce que cette répartition va rester la même ou est-ce que dans la réforme, on pourrait penser que l'employeur pourrait payer plus ou le salarié pourrait payer plus? Antoine Bozio, sur ce sujet?
Donc là, c'est là, on prend la répartition actuelle.
A priori, on n'y touche pas.
A priori, on n'y touche pas. Je pense pas que ça soit le cœur du débat de savoir de modifier cette répartition. Et juste pour revenir sur ce que vient de dire Michael Zemmour, là, moi, ce que j'ai bien lu, page 90 du rapport présenté par Jean-Paul Delevoye, il propose que ça soit bien les partenaires sociaux dans le conseil d'administration qui définiront la proposition des taux de cotisation.
La proposition au Parlement. Mais dans c'est toujours actuel, à l'AGIRC et à l'ARCO.
Mais c'est toujours le cas actuel, aussi dans l'AGIRC et à l'ARCO aujourd'hui.
Le relèvement du taux de cotisation a été décidé directement par les partenaires sociaux.
C'est bien toujours l'État qui définit si c'est vrai du prélèvement obligatoire. C'est toujours le cas, y compris à l'AGIRC et à l'ARCO aujourd'hui, même si c'est les partenaires sociaux qui définissent. À un moment, quand c'est du prélèvement obligatoire, pour obliger les entreprises à le payer, ce ne peut être qu'une décision de l'État qui finit par obliger de rendre obligatoire ces prélèvements.
Pour avancer, je voudrais qu'on évoque la question de l'égalité, voire de l'équité, puisque c'est la question qu'on pose ce soir. Cette réforme est-elle équitable sur France Culture dans du grain à moudre d'été? Jean-Paul Delevoye dit que ce système sera moins inégalitaire pour le public, le privé, pour les hommes et les femmes aussi. Est-ce que, de ce point de vue-là, il vous semble avoir raison, Fabienne Clamins?
Alors... Si vous préférez, le but de cette réforme, comme je le disais tout à l'heure, c'est effectivement de mettre un pilotage automatique sur, quelque part, une mécanique qui va permettre d'équilibrer ce système. Et en fait, derrière ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, pour faire ça, ils ont besoin que les règles de calcul, en tout cas, soient unifiées. Voilà, et elle est là, l'équité, en fait. C'est-à-dire qu'on va baisser de façon drastique les retraites pour tout le monde, de façon équitable, parce qu'on aura la même règle de calcul pour tous. Nous, l'équité, elle est à ce niveau-là.
Antoine Bozio.
Donc ça fait depuis plus d'une dizaine d'années que les travaux ont été faits pour montrer que les règles actuelles dans le système ont des effets, ce qu'on appelle anti-redistributifs, les règles du cœur du système contributif, c'est-à-dire qu'ils sont défavorables aux 50% les plus pauvres au sein du système. Alors pour vous donner un exemple concret de...
Pour bien comprendre.
La règle des 25 meilleures années. Au niveau individuel, quand elle a été mise en place, ou même quand elle était la règle des 10 meilleures années, on pensait que c'était pour protéger les gens qui avaient des accidents de carrière. Et c'est assez logique, on se dit, si on prend les meilleures années, on ne prend pas les mauvaises années, et donc c'est mieux pour ceux qui ont des accidents de carrière. Le problème, c'est que lorsqu'on a mis en place cette méthode, on s'est rendu compte qu'en réalité, pour bien comprendre qui est avantagé pour les 25 meilleures années, si vous avez fait toute votre carrière au SMIC, vos 25 meilleures années, c'est le SMIC. Mais si vous avez commencé au SMIC et vous finissez à 6 fois le SMIC, eh ben en fait, vos 25 meilleures années, ça vous donne un avantage qui est bien plus fort. Donc en réalité, ceux qui sont relativement avantagés par cette règle-là sont les plus hauts salaires. Et donc quand on fait les calculs de voir qui gagne relativement à ces règles-là qui étaient mises en place à des fins de redistribution, en réalité, c'est les plus hauts salaires qui bénéficient et ceux qui ont des accidents de carrière, les femmes en particulier, qui sont les pénalisées. Donc il y a ce caractère paradoxal qu'une réforme qui vise à dire « je vais prendre toute la carrière en compte » a des effets bénéfiques pour les 50% les plus pauvres, pour les femmes plutôt que pour les hommes.
Michael Zemmour.
Un bon exemple sur les inégalités, c'est les inégalités femmes-hommes. Et notre système de retraite, comme beaucoup de systèmes de retraite d'ailleurs, ils amplifient les inégalités femmes-hommes. C'est-à-dire que les inégalités à la retraite sont plus importantes nettement, de l'ordre de 40%, que les inégalités sur le marché du travail.
Mmh. Elles sont liées à quoi ces inégalités? Au salaire?
Ben, justement.
Aux carrières heurtées, comme vous l'avez dit?
Les inégalités de retraite, en fait, c'est parce qu'on prend en compte deux éléments, le salaire et la carrière. Et comme les femmes sont désavantagées sur les deux tableaux, le fait de prendre en compte les deux éléments, ça amplifie les inégalités. Et effectivement, peut-être un objectif qu'on pourrait se fixer, c'est que les inégalités à la retraite ne soient pas plus fortes que dans la carrière. Alors maintenant, si on regarde la réforme, le système actuel, etc. Ce qui se passe dans le système actuel, et ça sera aussi vrai après la réforme, si j'ai bien lu le rapport, c'est que pour contrebalancer ces effets-là, pour les amortir, il y a des minima de pension. Donc un relèvement des personnes qui ont des pensions trop faibles, et il y a même ensuite le minimum vieillesse. Et en fait, ça permet d'amortir en partie les effets, mais pas tous.
On passe de 80 à 85% du SMIC. Hein, pour.
C'est là où il faudrait regarder dans les détails, parce qu'effectivement, un des effets redistributifs qui est affiché par le rapport, il est moins sur le mode de calcul que par le relèvement du minima de pension. Ce qui n'est pas très clair, c'est combien de temps il faudra avoir travaillé pour le toucher et à quel âge. Ça a l'air d'être un peu plus tard, ça dépend de la génération. Mais donc du coup, sur les effets redistributifs, j'ai envie de dire deux choses. Les projections qu'on voit dans le rapport montrent des retraites qui se tassent, alors un relèvement par le bas si ces minima de pension sont relevés, et un tassement par le haut, c'est-à-dire des taux de remplacement pour les cadres qui diminuent. Ça, c'est l'intérieur du système. De ce point de vue-là, on pourrait dire il est plus redistributif, parce que si vous donnez des sommes proches à tout le monde, c'est plus redistributif. Mais dans le même temps, qu'est-ce qui va se passer? Si les pensions apparaissent comme insuffisantes, pour les salariés, par exemple, les 50% de salariés les mieux payés, au-dessus de 1700 euros, il va y avoir une course à compléter sa retraite. Et là, pour compléter sa retraite, on peut faire de l'épargne, de la capitalisation. Et là, les inégalités rentrent par la fenêtre. Et donc, c'est là-dessus qu'il faudra avoir un vrai diagnostic, pas seulement de l'intérieur du système, mais aussi la capitalisation ou éventuellement la baisse des pensions pour ceux qui ne pourront pas y recourir.
Antoine Bozio.
Donc, c'est des points qui devront être étudiés assez précisément. Une fois qu'on sait assez bien les mécanismes de passer des règles actuelles à toute la carrière. Ça, c'est ce que je vous ai décrit.
Oui.
Après, ce qui est...
Et sur ce que vient de dire Michael Zemmour sur le retour des inégalités en complétant ces retraites, et ce sera plus facile pour les gens qui gagnent le plus d'argent.
C'est ce qu'on observe en Allemagne, en Suède, dans les pays qui ont déjà ce chemin-là, en fait.
Moi, je trouve pas ça totalement évident parce que, d'une certaine façon, là, ce qu'on décrit quand même, ce que vient de décrire Michael Zemmour et ce qu'on comprend d'être avec ces dispositifs de solidarité supplémentaires qui sont mis en place, c'est-à-dire qu'on aura bien une réduction des inégalités à la retraite. Donc, ce qu'il faudra arriver à ce que dit Michael Zemmour, cette réduction des inégalités à la retraite, elle va créer d'autres inégalités parce qu'il y aura la volonté de compléter par de l'épargne retraite qui sera inégalement répartie. C'est pas impossible. Mais enfin, ce que je vois pas, c'est pourquoi ça serait plus le cas dans le nouveau système que dans le système actuel avec des projections et des incertitudes sur les taux de remplacement beaucoup plus forts.
On y revient.
Si c'est vraiment le cas, ça serait bien pire dans le système actuel.
Fabienne Clamins, et puis on va rentrer encore un peu plus dans le détail avec deux, trois mesures évoquées ce matin.
Oui, alors par rapport à ça quand même, quand effectivement moi je voudrais en revenir au fait qu'on prenne en compte toute la carrière, effectivement à partir du moment, quand vous dites on compare les systèmes, mais en même temps vous sortez le cœur pour moi aujourd'hui du système actuel qui est malgré tout les solidarité puisqu'il a été conçu comme ça. Or, aujourd'hui, comment ça se passe en fait? Effectivement, pour toutes ces périodes qui sont des périodes parfois de maternité, enfin maladie, etc., on avait ce qu'on appelait des trimestres assimilés qui venaient au compte, s'additionnaient pour venir compléter la carrière. Et ensuite, on avait une règle de calcul de la pension qui était sur les 25 meilleures années. Ce qui permettait donc du coup ces périodes assimilées de solidarité de compenser quelque part à un moment donné je pense par exemple à la majoration les 4 trimestres pour maternité, les 4 trimestres voilà, qui venaient compenser un petit peu ces inégalités. Et du coup, on avait quand même, malgré tout, une pension calculée sur les 25 meilleures années. Or, aujourd'hui, on va se retrouver avec le calcul de la pension, puisque ça, c'est, voilà, hein, c'est la règle, sur toute une carrière avec des périodes heurtées. Et ça, c'est très important, parce que juste, je veux donner quand même un exemple, parce que nous, on a fait, hein, on a regardé quel était l'impact sur toute une carrière quand on faisait ce calcul-là. On a pris, bon, je vais vous prendre un exemple, c'est un exemple d'un journaliste, hein, avec donc des périodes un petit peu de chômage, des périodes de pigiste avec, voilà, avec des salaires plus bas. C'est quelqu'un qui est parti à la retraite. Le salaire moyen de ses 25 meilleures années, il équivaut à 2090 euros. Mmh. Sa retraite aujourd'hui, elle est 2800 euros. Vous prenez le salaire moyen de toute sa carrière, ça tombe à 1300 euros. Donc, vous pouvez imaginer derrière la pension. Donc, on peut m'expliquer qu'à côté de ça, il va y avoir effectivement un saupoudrage de solidarité avec des bonifications.
Voilà, des points de solidarité.
Voilà. Sauf que ça ne viendra pas compenser cette diminution au niveau de la retraite. Tout simplement.
Il nous reste un petit quart d'heure. Je voudrais qu'on parle de donc d'autres mesures. On a compris l'esprit global, hein, général de cette réforme. Dans cette réforme, il est fait mention de l'âge de départ à la retraite. L'âge légal ne change pas. 62 ans, c'était une promesse du candidat et du président Macron. Mais on voit apparaître un âge d'équilibre pour toucher une retraite à taux plein. Et il faut bien le mentionner. Cet âge d'équilibre, il est fixé pour le moment à 64 ans. Jean-Paul Delevoye a expliqué que 64 ans, ça correspondra à l'âge moyen de départ à la retraite en 2025, la date prévue pour l'entrée en vigueur de cette réforme. 64 ans, et vous l'avez évoqué déjà tout à l'heure, c'est un âge qui évoluera avec l'espérance de vie. On se demande du coup pourquoi maintenir à tout prix un âge légal de départ à la retraite, Michaël Zemmour.
C'est effectivement un peu étonnant. Alors, il y a un argument qui est de dire qu'il faut donner une indication aux gens pour qu'ils se calent sur cet âge-là. Mais cet âge d'équilibre, on a du mal à comprendre parce que précisément, il me semble que dans un système à points, la notion d'auto-plein n'a plus de sens. Dans notre système actuel, comme on a une cible de taux de remplacement, il faut atteindre cet âge-là pour avoir, par exemple, pour la retraite de la Sécurité sociale, 50% de son salaire moyen. Il y a ce chiffre de référence. Mais à partir du moment où vous n'avez plus de cible, cet âge d'équilibre, c'est simplement l'âge auquel le gouvernement souhaiterait que vous orientiez. Mais il y a une pénalisation de toutes les personnes qui s'arrêtent avant et une pénalisation de toutes les personnes qui s'arrêtent après. Cette pénalisation, elle est continue. Mmh. Et donc, c'est plutôt un âge glissant. Et surtout, la différence, c'est ça qui est un peu étonnant, c'est ce vocabulaire du taux plein. Dans un système à points, il n'y a pas de taux plein. Vous avez des points et à un moment donné, vous regardez ce que ça fait. Mmh. Et simplement, ce qu'on nous dit, comme cet âge glisse, les points vaudront pas la même chose pour quelqu'un né en 1980 ou quelqu'un né en 1990 par rapport à son dernier salaire. Ça évoluera parce que l'espérance de vie s'allonge.
Antoine Bozio.
Là, c'est un des points où je suis le plus critique vis-à-vis des propositions qui ont été faites ce matin. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, dans un système bien conçu de retraite en répartition, fonctionnant en points comme ici, on n'aurait effectivement pas besoin d'avoir un âge d'équilibre. Mmh. On aurait simplement besoin de fixer un point de référence qui peut être... Et donc, nous, quand on avait fait des travaux, nos travaux universitaires de l'USUR, on a imaginé qu'on pourrait avoir un point de référence individuel, un point de référence qui serait un nouvel âge du taux plein. Donc on peut très bien imaginer un âge du taux point dans vos systèmes en disant quand vous avez atteint 75% de votre dernier salaire ou une formule pour dire que, pour donner un point de référence pour les assurés qui puissent viser à maintenir leur niveau de vie parce que l'objectif d'un système de retraite c'est bien le maintien du niveau de vie. Là, le choix qui a été fait par le haut commissaire d'insister sur un âge pivot, c'est un âge unique qui est le même pour tout le monde. Ce qui, à mon sens, a plein de défauts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, au vu de leur carrière, en réalité, devraient partir ou pourraient partir avec, sans avoir besoin d'une pénalité, plus tôt. Ou à l'inverse, d'autres personnes qui n'auront pas vraiment atteint de taux de remplacement suffisant à cet âge-là et devraient partir un peu après.
Taux de remplacement, c'est une expression que vous utilisez depuis le moment. Qu'est-ce que ça signifie précisément ?
C'est la façon dont on rapporte le niveau de vie, c'est-à-dire c'est le rapport entre la pension, ce que vous avez comme pension, par rapport à ce que vous avez comme salaire avant. Donc le taux de remplacement, c'est dire, quand on veut un taux de remplacement élevé, c'est maintenir le niveau de vie qu'on avait pendant la période d'activité, pendant la période de retraite.
Fabienne Clémence.
Oui, donc je ne vais pas reprendre ce qui a été dit. Effectivement, hein, l'âge de départ, il va dépendre du niveau de pension, concrètement. Donc, effectivement, il y avait cette idée qu'il fallait maintenir des repères afin que peut-être les gens ne partent pas trop tôt. Il y a un repère de 62 ans avec des petites pensions, c'est ce qui avait été dit, hein, il me semble. Mais concrètement, c'est pour que progressivement, finalement, l'individu, tout seul, s'il voit qu'il n'a pas assez de retraite, il parte plus tard. ce qui évite quand même au gouvernement de prendre des réformes souvent impopulaires. Donc en fait, hein, ça sera une gestion individuelle de son départ à la retraite. Ça, c'est une chose. Par contre, seconde chose, nous, on est très inquiets parce que malgré tout, aujourd'hui, à 5, vous avez 50% quand même des personnes qui arrivent à l'âge légal de la retraite à 62 ans, qui ne sont plus en emploi, qui sont dans d'autres situations, des situations de chômage, des situations d'invalidité. Or, pour ces personnes-là, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'ils seront amenés à prendre leur pension, une pension à taux minoré, une petite pension, et qui seront au minimum vital. Enfin, voilà. Donc, on est quand même là dans un système qui, quand même, nous rappelle bien les systèmes à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'on a un système qui va nous amener à avoir un filet de sécurité. Un filet de sécurité. Et que, ensuite, pour ceux qui le pourront, eh bien, il faudra capitaliser. Ils prendront peut-être on retombe quand même dans un système très inégalitaire.
Michael Zemmour.
Ouais. Plus que l'âge pivot, la question clé, c'est cette question de l'incitation à travailler plus longtemps. Alors c'est déjà un problème dans le système actuel et c'est remis là. Alors dans le système actuel, c'est une incitation soit à l'âge, soit à la durée. Dans la réforme de Levoix, c'est une incitation uniquement sur l'âge. Mais là où il y a un vrai enjeu, c'est quand on dit incitation à travailler plus longtemps, ça veut aussi dire pénalisation de celles et ceux qui travaillent pas plus longtemps. Mmh. Et aujourd'hui, on a un sas assez long, d'un an, deux ans en moyenne, entre la fin de l'activité et la retraite. Et donc, ça veut dire que les personnes qui ne choisissent pas leur âge de départ, qui ont déjà arrêté, elles vont être mises devant une situation qui existe déjà aujourd'hui, mais qui va se prolonger, de savoir, est-ce que je prends tout de suite une pension réduite ou est-ce que j'attends, alors que je ne suis plus en emploi, pour avoir une pension meilleure, mais dans deux ans, dans trois ans, en vivant entre-temps d'expédients ou de minima sociaux.
Autre point, on va parler de la méthode. Il nous reste un peu plus de 5 minutes, donc je vais vous demander d'être un peu plus concis sur le prochain sujet. C'est la fin des régimes spéciaux. Alors, c'est un vaste sujet. Hein. 42 régimes spéciaux sur lesquels Alain Juppé avait trébuché, vous vous en souvenez peut-être, en 1995. Ces régimes avaient aussi évidemment leur justification en raison de la pénibilité, voire de la dangerosité de certains emplois. Est-ce qu'il existe, dans ce qui a été proposé ce matin par Jean-Paul Delevoye, des mécanismes de compensation? Antoine Bozio.
Donc l'idée générale de ce que je comprends de ce qui était proposé ce matin, c'est le fait qu'on puisse avoir des mécanismes prenant en compte la pénibilité, mais qui ne soient pas limités à certains régimes, c'est-à-dire que la pénibilité peut avoir lieu dans tous les régimes, et donc d'arriver à prendre en compte cette pénibilité dans l'ensemble des régimes de façon objective et pas simplement de dire un tel régime...
Ce sera lié au compte pénibilité ?
C'est ce que j'ai compris de ce qui a été annoncé ce matin.
D'accord. Michael Zemmour.
Il y a beaucoup de spécificités des différents régimes. Il y a un gros point d'interrogation sur le plus gros des régimes spéciaux, la fonction publique, et en particulier sur la question des enseignants. Donc, pour l'instant, les modalités de transition ne sont pas connues et ça pourrait amener effectivement à des baisses très sensibles pour cette catégorie-là.
Fabienne Clamence.
Effectivement, hein, la piste qui est lancée, c'est effectivement de mettre tout le monde avec le compte pénibilité, ce qu'on appelle le compte pénibilité, sauf qu'il faut savoir quand même aujourd'hui que le compte pénibilité, vous avez, allez, au grand maximum, vous pouvez acquérir 100 points, ce qui correspond en gros à un départ anticipé de 2 ans, donc on est loin quand même des conditions de départ anticipé qui venaient compenser les conditions de travail difficiles dans les régimes spéciaux, ça c'est clair. Sachant que sur ces 100 points en plus, tous ne peuvent pas être utilisés pour la retraite. Enfin voilà, je veux dire, on est vraiment dans la fin des régimes spéciaux et surtout dans une non prise en compte du tout de la pénibilité dans cette réforme.
On entend dans ce que vous dites, il y a encore beaucoup de sujets qui méritent d'être précisés, donc discutés aussi entre le gouvernement, les autorités et les organisations syndicales. Entre autres, il n'y aura pas que ces discussions. Il y a eu du temps, il y a déjà eu de la concertation, je l'ai dit, 18 mois de discussion. Pour le moment, est-ce qu'il s'agit d'une bonne méthode ? Michael Zemmour.
Alors, on n'a jamais eu autant de temps pour discuter d'une réforme, mais jusqu'à aujourd'hui, la discussion s'est faite complètement à l'aveugle. C'est-à-dire que le système est tellement différent du système actuel que pour savoir ce qui va se passer, il faut des simulations. Alors aujourd'hui, pour la première fois, on a eu quelques cas types, 8 ou 9 cas de figure, mais en fait, le gouvernement dispose de simulations assez précises qui peut dire où sont les gagnants, où sont les perdants, où sont les zones de fragilité. Et il me semble que pour avoir une discussion éclairée, il faudrait mettre ça sur la table pour pas être dans l'à peu près ou dans le questionnement.
Fabienne Clamence.
Oui, alors effectivement, hein, c'est-à-dire qu'on a passé beaucoup, beaucoup de temps, mais en même temps sans avoir des choses très précises en termes de niveau de pension, par exemple. Ça, c'est l'essentiel, hein, il me semble. Donc, beaucoup de temps à nous expliquer des choses, etc. Surtout pas nous entendre. Donc, voilà, la concertation, là, on est en train de repartir. Mais bon, nous, on n'attend absolument rien de cette concertation, et ça, c'est clair.
Antoine Bozio.
Moi, ce que je trouve très positif, c'est qu'on a réussi à prendre du temps pour préparer une réforme, alors que jusqu'à maintenant, on a fait des réformes en disant c'est la catastrophe, c'est la crise, il faut prendre des mesures d'urgence, on n'a pas le temps, du coup, d'essayer d'aller en profondeur. Là, pour la première fois, on a pris beaucoup de temps, et je crois que ça permet quand même de voir beaucoup de problèmes, parce que c'était pas facile pour le Haut-Commissariat à préparer cette réforme. Mais par contre, maintenant, je suis d'accord qu'il va falloir aller dans le détail, regarder les simulations, il y a des choix précis qui doivent être faits, qui doivent être arbitrés, et pour cela, il faut qu'ils soient informés par le maximum d'éléments probants, de simulations sur les possibles choix, les possibles arbitrages qui doivent être faits.
Une idée du calendrier, un projet de loi doit arriver au Conseil des ministres à la rentrée, puis éventuellement un examen par le Parlement l'année prochaine. On ne sait pas très bien d'ailleurs si ce sera avant ou après les élections municipales, c'est un écueil électoral d'importance. Avant tout cela, il y aura encore des discussions. Ça doit commencer, si j'ai bien compris ce qu'a dit Jean-Paul Delevoye, dès la semaine prochaine autour de la ministre Agnès Buzyn. Est-ce que vous en ferez partie, vous à la CGT, Fabienne Clamence?
Écoutez, pour l'instant, on vient d'avoir le calendrier, on vient d'avoir le projet, on va se donner le temps d'y réfléchir, puisque comme je vous ai dit, hein, jusqu'à maintenant, ça ne nous a pas amené grand-chose.
Vous avez espoir quand même d'arriver à changer des
choses. Vous savez, nous, aujourd'hui, très sincèrement, cette réforme, on veut qu'elle soit retirée. Voilà, donc.
Purement et simplement.
On n'est pas là.
C'est pas une base de négociation
pour
vous.
C'est pas une base de négociation, simplement parce que c'est une réforme qui va amener une paupérisation des retraités avec une baisse des pensions, c'est tout.
Est-ce que vous ferez partie des discussions encore, Antoine Bozio? Est-ce que vous en ferez partie?
Je peux pas vous dire. En tout cas, je suis universitaire, je réponds à toutes les questions qu'on me pose sur ce qu'on peut faire comme diagnostic. Et donc,
Dans la méthode aussi, il y avait des nouveautés dans la gouvernance de ce régime. Qu'est-ce qui est prévu là-dessus, Antoine Bozio?
Ce qui est prévu, c'est une gouvernance qui est assez originale au sens où, d'une certaine façon, on avait aujourd'hui une gouvernance qui était très, d'un côté, dominée par l'État pour la partie régime général sécurité sociale, et de l'autre côté, pour les régimes complémentaires type AGR Carco, beaucoup plus de liberté pour les partenaires sociaux pour organiser. Et là, il y a une sorte d'invention d'une nouvelle forme de gouvernance qui donne à un conseil d'administration assez large où les partenaires sociaux ont une grande part et où le Parlement est finalement à fixer des grandes orientations et sa validation, par exemple, des prélèvements obligatoires, de ce qu'on comprend.
Michael Zemmour.
Il y avait deux endroits qui restaient en France où les partenaires sociaux géraient la protection sociale. L'assurance chômage, l'UNEDIC, et c'est en train de voler complètement en éclats, et la GERCARCO, les retraites complémentaires. Là, ce qui se dessine avec le rapport, c'est plutôt une diminution du pouvoir des partenaires sociaux par rapport aux retraites complémentaires et quelque chose qui serait à mi-chemin entre ce qui existait dans les retraites complémentaires et la retraite de la sécurité sociale où c'est l'État qui décide de tout. Donc là, il y a une vraie question. Quel est l'espace laissé aux partenaires sociaux? Quand on lit bien dans le détail, par exemple, le retrait du pouvoir sur la cotisation sociale, ça serait plutôt un recul pour les partenaires sociaux.
Bon, on n'a pas fini, évidemment, d'entendre parler de ce dossier des retraites. On suivra ça avec vous trois. Merci d'être venus dans Du grain à moudre d'été ce soir. Antoine Bozio, directeur de l'Institut des politiques publiques. Michael Zemmour, maître de conférence en économie à l'Université Lille 1. Et Fabienne Clamens, chargée des questions de retraite à la CGT. Merci également à l'équipe du Grain à moudre d'été, Marguerite Caton, Léa Capuano, Margot Leridon, Roxane Poulain et Valentin Berg. Réalisation de l'émission ce soir, Thomas Jost. Mise en onde, Alex Dang, pour la réécouter. Vous pouvez aller sur l'application Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. Restez avec nous sur France Culture. Dans une minute, Matière à penser avec Frédéric Worms.